Avec la nouvelle grille RRB, plus la peine de zapper. Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute d'RRB, il est 9h30, il est temps pour nous d'entamer ce nouveau rendez-vous avec à plus d'un titre.
À plus d'un titre sur RRB.
Notre invité est né le 9 mai 1961 à Nice. Il a un frère jumeau, une grande sœur de 3 ans, son aîné et un jeune frère de 10 ans de moins. Son père est ouvrier dans le bâtiment et sa maman est mère au foyer. Il vivra à Nice jusqu'à 27 ans. Passionné de planches à voile, il deviendra shaper, fabriquera des planches donc. Il passera un CAP bijoutier, mais à 18 ans, il va trouver une guitare dans le hall de son immeuble. Elle est en sale état. Il lui redonnera une seconde jeunesse. C'est le début d'une passion pour cet instrument. Il voyage dans les spots du monde entier afin d'assouvir sa passion pour les voiles et le vent. Et le vent l'emmènera justement en Nouvelle-Calédonie, après Hawaï, les Canaries et autres. Il arrive au Faré de la Pointe Magnin. Il va rencontrer une Calédonienne qui deviendra sa femme, école de musique, Gypsy Jazz Festival, pardon, un homme qui entreprend beaucoup. Les cheveux gominés comme un héros de Brian de Palma, cet affranchi nous propose de découvrir son univers. Les choix d'un homme qui fait jouer ses doigts sur des morceaux de bois, c'est Michel Trabelsi que l'on reçoit. Bonjour Michel.
Bonjour.
Alors déjà, enchanté de faire votre connaissance. Merci d'être venu nous rendre visite. On va commencer dans quelques instants. On va rentrer dans le vif du sujet avec le premier de vos choix. C'est un morceau des New Morricone. Oui. Il était une fois dans l'Ouest.
Le Far West.
Alors pourquoi vous nous emmenez à l'Ouest?
Bah, tout simplement parce que quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, mon père était adoré aller au cinéma. Donc on allait voir des péplums, on allait voir des westerns, et voilà, j'ai voulu lui rendre hommage dans ce début d'émission en écoutant un super morceau. Bon, Ennio Morricone, grand compositeur, et puis il suffit d'écouter cette musique et on voyage. Bon, la musique nous fait voyager, peu importe le style, peu importe ce que l'on aime, mais là particulièrement Ennio Morricone, c'est vrai que c'est vraiment de grande orchestration et moi je suis fan, quoi.
Et les dimanches chez vous, ça se passait comment? Il y avait une discographie à la maison? On écoutait de la musique? Parce que là, c'est la musique à travers le cinéma. C'était au cinéma que vous entendiez, voilà, ce genre de morceaux.
C'est là que je découvrais en fait tout ce qui était cuivre dans les péplums. On entendait beaucoup de trompettes, beaucoup de grandes orchestrations. Et le dimanche, c'était un petit peu sacré à la maison. Parce que mon père, étant d'origine tunisienne, tout de suite à l'époque, il y avait une émission qui s'appelait Mosaïque. Et il se branchait tout de suite sur cette chaîne radio et on pouvait entendre Oul Kalsoum, une grande chanteuse égyptienne. On pouvait entendre donc la musique arabe. On pouvait entendre la musique de syrienne, donc turque. Donc je pense que c'est ça qui m'a aussi un petit peu ouvert l'esprit au fur et à mesure sur tout style de musique, y compris le jazz manouche, la musique indienne. Donc ça a été un petit peu, on a été bercé toute notre enfance avec cette musique.
Allez, il était une fois dans l'Est, Ennio Morricone.
À plus d'un titre sur RRB.
L'émission c'est donc bien à plus d'un titre. Il est 9h37 et nous recevons Michel Trabelsi. C'est notre invité aujourd'hui. C'était donc son choix, ce morceau d'Ennio Morricone. Il était une fois dans l'Ouest, tiré donc de la BO du film. On part dans la nostalgie là. Qu'est-ce que c'est impressionnant à quel point c'est évocateur, hein, ce morceau.
Mais c'est ça, la musique d'Ennio Morricone. C'est tout de suite, on imagine des paysages. Bon là, des films avec James Coburn, Charles Bronson, Henry Fonda, donc en même temps l'image et la musique qui s'associent parfaitement. Et puis après voilà, on imagine bien les grands espaces le western, les cowboys. Enfin, moi je suis un fan, vraiment.
C'était lequel votre préféré, Clint Eastwood? Vous l'avez pas cité celui-là.
Oui, Clint Eastwood, bien sûr. J'adore tous ces grands acteurs qu'il y a eu à l'époque. Et en faisant le choix justement des morceaux, je me suis remis un petit peu là-dedans. Je me suis dit, tiens, ça c'est vraiment sympa. Et puis bon, maintenant l'avantage avec YouTube, il suffit de taper le nom, on trouve tout ce qu'on veut, quoi. C'est vrai qu'à l'époque c'était difficile. On pouvait pas forcément acheter le vinyle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est tellement plus facile de retrouver des vieux morceaux qu'on écoutait quand on était jeune, quoi.
Ça a changé les choses, hein, YouTube, hein, pour beaucoup de gens. Sur la découverte de la musique,
oui,
la discographie.
Complètement, même pour l'apprentissage d'un instrument. Bon, aujourd'hui, on trouve tout, quoi. C'est génial.
Alors vous, votre première guitare, justement, ça nous amène à la transition, vous l'avez trouvée dans un hall d'immeuble.
Ben oui, en fait, je descendais où j'habitais, puis j'ai trouvé une guitare toute cassée. Je me suis dit, tiens, et puis j'étais bien bricoleur à l'époque, j'aimais bien bricoler.
Ça, c'est le CAP Joaillerie ?
CAP, ouais, c'était avant.
J'ai toujours
regardé mon père qui bricolait à la maison. Quand c'était une fois par an, on refaisait le papier peint, donc j'ai appris avec lui pas mal de bricolage. Et là, je trouve cette guitare, je me suis dit, tiens, c'est marrant, tiens, je vais la réparer. Et puis j'avais le père d'un copain qui était espagnol, et puis je lui dis à mon pote, ça s'accorde comment une guitare? Il me dit, ah mais mon père il joue de la guitare, viens on va aller le voir. Et donc on est allé le voir, quand j'ai amené ce bout de morceau de bois rafistolé avec des vis.
Carrément des vis.
Ah ouais, j'avais vissé ça. Il n'a pas pu s'empêcher de rigoler, il m'a dit, bon ben voilà, attends, je vais te montrer. Donc il m'a appris à accorder la guitare, il m'a montré un petit morceau très simple. Une petite balade espagnole, et j'ai jamais oublié ce morceau en fait, et c'est ce qui m'a vraiment donné envie de commencer à savoir comment ça marche, quoi.
Et vous aviez quel âge à cette époque-là alors?
Oh, je devais avoir à peu près 15 ans.
Voilà,
15-16 ans. Ouais.
Voilà, on va passer sur un votre second choix, c'est un morceau qui est quand même l'apothéose des guitaristes, enfin si on peut, cette espèce de duel, donc toujours tiré du film Délivrance.
Oui, hein. Exactement.
Excellent film. Dueling Banjo.
Oui.
Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de ce morceau? Pourquoi ce choix?
Ben en fait, ce choix, c'est que après avoir trouvé cette guitare et avoir commencé à m'essayer à faire des accords, j'avais un copain qui faisait du picking. Il m'a dit, ah mais tu connais Marcel Dadi? J'ai dit non, c'est quoi ça? Et à l'époque, c'était un disque vinyle dans lequel il y avait une méthode d'apprentissage de la guitare sans solfège. C'était un système de tablature qui existe depuis le Moyen-Âge. Les rois à l'époque, il fallait qu'ils jouent un petit peu devant tout le monde, mais bon, comme ils n'avaient pas forcément, j'allais pas dire l'intelligence, mais le temps d'apprendre le solfège, donc ils travaillaient, ils apprenaient à jouer d'instruments avec ce mode de chiffrage, donc sur lequel on voit les c'est des lignes et vous avez des chiffres qui représentent les cordes, et c'est comme ça que j'ai
donc genre 1, 2, 3, genre corde numéro 3,
corde
il faut
numéro
que
3.
Je fasse quoi, je
appuyer à la troisième case avec tel doigt, donc tout était là-dedans dans cette méthode, et j'ai commencé donc à jouer du picking. J'ai acheté le disque et tout, et de Marcel Dadi, l'album. Et à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à la musique country. Et c'est vrai, quand le film est sorti, j'ai dit waouh, c'est super ça. Donc à la fois je faisais du picking, et à la fois j'essayais un petit peu de retrouver, de trouver les notes sur ce morceau-là.
Allez, on fait découvrir ça à nos auditrices, à nos auditeurs. C'est Dueling Banjo, tiré du film Délivrance.
À plus d'un titre sur RRB.
9h45, déjà un petit quart d'heure, ça passe très très vite et nous sommes avec notre invité Michel Trabelsi, donc qui vient de vous faire écouter Dueling Banjo. Alors pour les non-musiciens, ça se passe vraiment comme ça les rencontres entre musiciens, parce que là c'est un peu le guitariste qui fait écho à celui qui joue du banjo là quand ils se rencontrent. Vous discutez comme ça, vous les musiciens?
Bah c'est vrai que des fois nous on n'a pas besoin de se parler quoi. Des fois on va se rencontrer quelques mots et surtout en fait on se parle avec l'instrument quoi. C'est quand il y a un bon feeling, voilà, on sent. C'est en fait un dialogue, un discours qui se fait naturellement par cette passion commune de la musique, peu importe l'instrument. J'ai joué avec beaucoup de musiciens, aussi bien avec des violonistes, des pianistes et des guitaristes. Bon, c'est vrai que tout de suite, voilà, le feeling passe et c'est comme ça qu'on parle. On parle plus en jouant de l'instrument qu'en discutant entre nous.
Ça se juge sur des petits détails, parce que nous, on peut pas le percevoir, tout ça. Mais la cadence, la vitesse, si la personne est capable de vous suivre, où est-ce qu'elle vous emmène, ce qu'elle vous propose?
Oui, bon, de toute façon, en plus, moi, ce qui est le plus important, je pense, selon moi, dans la musique, quand on joue, il faut... Voilà, c'est ce que j'ai expliqué la dernière fois à des potes à qui on joue. Voilà, pour jouer ensemble, faut s'aimer, quoi. Faut vraiment que...
Faut être bienveillant.
Bienveillant, et puis faut s'apprécier. Donc, voilà, c'est comme ça que ça se fait. C'est le feeling, ce qu'on appelle le jam, quoi. On se rend compte, on joue, tiens, on part sur quoi? Très souvent, c'est un blues. Voilà, c'est le feeling, c'est le plaisir de faire de la musique ensemble.
Le prochain morceau, c'est Santana.
Oui.
Alors, pourquoi Santana et surtout, pourquoi Europa et pas Maria, le classique?
Parce que Maria, c'est sorti, bon, il y a, je crois, quoi, peut-être une quinzaine d'années. Mais là, ce qu'il faut savoir, c'est que Europa, là, à l'époque, j'ai 17 ans. Ça fait un an que je joue de la guitare et d'un coup, j'entends un son, mais vraiment, je me dis, waouh, c'est quoi? Carlos Santana. Là, j'ai halluciné. J'ai dit, ouais, c'est génial, c'est ça que je veux faire, ça. C'est ça que je veux faire, quoi. Parce que je sortais, j'avais commencé à travailler la guitare, le picking, mais là, c'était de la guitare électrique. Et là, tout de suite, ça m'a plu, quoi. Cette musique cubaine, ce son de guitare. Et ça a marqué aussi, c'est vrai que ça a marqué complètement ma jeunesse. Non, ma jeunesse a été marquée par beaucoup de choses, surtout musicalement, comme je suis guitariste. Et là, waouh, c'est ça que je veux faire. Donc, pour moi, Santana, c'était...
Vous aviez quel âge?
J'avais à peu près 17 ans. Pour moi, Santana, c'était mon dieu, quoi. J'étais fou après lui. Et après, j'ai vu le premier concert. Il passait à Nice, à l'époque, au Stade de l'Ouest. Et on était gamins, donc on est arrivés. On leur donnait pas d'argent. on faisait la queue comme ça devant l'entrée. Et ça faisait une heure que le concert était là. Et puis, on était avec des potes. Et le gars nous a dit, bon, allez, les jeunes, allez, je vous laisse rentrer. Donc, je suis arrivé...
Carrément.
On a traversé la scène, on est arrivé, mais j'étais pile devant, il y avait le groupe complet, Carlos Santana, avec les percussions, la batterie, ça a été un choc, quoi. Émotionnellement, ça a été fort, wow, j'en ai pris plein les oreilles, plein la tête, j'ai dit, c'est ça que je veux faire, quoi.
Bon, on change de moustachu, c'est plus Burt Reynolds, c'est
voilà, c'est ça.
Et on passe avec le morceau Europa, c'est donc un choix de notre invité Michel Trabelsi. Merci encore une fois, on y va.
plus d'un titre sur RRB.
L'émission, c'est à plus d'un titre. Le titre que l'on vient de s'écouter, c'est Europa de Santana. Alors, pour les non-musiciens, ça reste toujours une énigme un peu Santana, parce qu'il n'y a pas de parole.
Oui.
Et
Sur certaines chansons, oui.
Voilà, alors, sauf sur, par exemple, Maria ou ce genre de choses. Mais qu'est-ce qui vous fascine autant, vous, les musiciens, chez Santana? Parce que c'est à peine perceptible pour nous, mais c'est la manière qu'il a de jouer.
En fait, Carlos Santana, la première fois qu'il est apparu sur scène, c'était lors du festival Woodstock. Mm-hmm. Et en fait, lui, en tant que musicien cubain, il a amené la musique cubaine dans le rock. Les percus, la manière de jouer, et c'est ce qui vraiment l'a rendu célèbre. Et nous, en tant que guitariste, c'est ce son, quoi. Il a un son unique, on le reconnaît, même si 20, 30 ans après, quand il a fait l'album Maria Maria, où lui aussi a évolué, c'est-à-dire qu'il s'est intéressé au rap, il s'est intéressé à d'autres musiques, il a réussi à inclure tout ça au sein de sa propre musique. Et il a quand même conservé son son qui est unique. Tout de suite, on entend un phrasé de Carlos Santana, on sait que c'est lui, quoi.
Quand vous dites phrasé, c'est ses riffs de guitare,
c'est par exemple, il va enchaîner. On entend juste, on va dire 2 secondes, ce qu'on appelle un trait. Donc, je sais pas, il va faire par exemple 15 ou 20 notes de musique avec son particulier, ce sustain qu'il a. Il joue avec une pédale overdrive.
C'est ce que j'allais vous demander. Il y a un truc technique derrière tout ça.
Il y a des effets, bien sûr.
Des réglages, des.
Il y a un compresseur. Bon, c'est en guitare électrique, bien sûr.
Oui.
Je crois qu'à l'époque, je crois qu'il jouait sur une Gibson Les Paul, qui est une bonne guitare pour le rock, c'est une guitare qui a une bonne résonance. Et il utilisait un compresseur, il utilisait aussi un overdrive. Ce sont des petites pédales qu'on rajoute et qui donnent ce son particulier. Quand il tire une note, par exemple, on l'entend, ça dure, mais en fait, oui, c'est le compresseur qui pousse la note. Après, c'est le toucher du guitariste, bien sûr, quoi. Il y a un toucher, la manière de jouer, c'est personnel. C'est là qu'on ressent vraiment la différence. Ah ben là, c'est lui qui joue, là, c'est un tel. Donc nous, en tant que musicien, on a l'oreille, on entend ça, oui.
Alors vous, à cette époque-là, vous êtes encore sur la guitare sèche. Elle va arriver quand, cette première guitare électrique?
Alors elle va arriver avec un pote qui en avait une.
D'accord.
Pareil, un vieux machin, tout rafistolé.
On va faire les guitares du cœur. Si vous avez des vieilles guitares, vous venez les déposer devant RRB.
Bah ouais, on était jeunes, on était à l'école, on n'avait pas beaucoup de sous, quoi. Et puis donc on se débrouillait entre nous. Et puis là, tiens, j'ai un ampli, c'est comme ça que ça marche. Donc on a, au fur et à mesure, j'ai appris ça, à brancher un ampli, à utiliser un médiator, ce qui changeait de jouer au doigt. Et donc c'est comme ça que petit à petit, je rentre dans l'univers de la guitare, en fait.
Le prochain morceau, c'est George Benson, What's on Your Mind. Qu'est-ce qu'il y a dans vos pensées?
Là, c'est pareil. J'entends une sonorité que je connais pas. C'est une première approche, je dirais, vers le funk, la soul, le jazz. Et George Benson, quand on voit aujourd'hui, il a, je crois, 83 ans, il joue encore toujours, il est encore sur scène, il est toujours au top. Guitaristiquement, c'est waouh. Et George Benson, j'adore l'écouter, même si aujourd'hui j'ai évolué musicalement, mais je l'écoute très souvent parce que c'est un maître de la guitare dans le jazz, quoi. Et aussi, il chante, il est surtout chanteur, parce que pour être bon musicien, en principe, faut essayer de bien chanter.
Ah, va falloir qu'on en discute de tout ça.
Ça. C'est ce que ma femme me dit, chante, chante, chante. C'est important, mais elle a raison.
Allez, c'est votre cadeau, George Benson, What's on Your Mind?
What's sleeping in someone else's mind? Looking at you, I hope to find what's hiding in your head. Deep beneath the ice may beat another rage's heart. Maybe what's keeping us apart is what we have inside. What's on your mind? Are you looking for somebody new? What's on your mind? Have you seen the way I look at you? looking at you tonight. Something's going on. I can feel it coming through. And I think you feel it too. Tell me that I'm right. What's on?
D'un titre sur RRB.
George Benson, What's on your mind? Il est 10h passé d'une minute. On a déjà fait un tiers de cette émission. Ça passe très très vite. Et notre invité du jour, eh bien, c'est Michel Trabelsi. Comment on vous qualifie finalement? Guitariste? C'est quoi le terme? Musicien?
Oui, guitariste.
Guitariste, c'est en ce fait. Que vous préférez?
Musicien, c'est ce que je préfère en fait.
Ouais.
Mais guitariste, oui, bah, gratteux, certain. Gratteux, non, j'aime moins.
Gratteux.
Ça fait un gratte.
Ça fait perroquet.
Ah, tu grattes de la guitare? Bah, ouais, ouais.
Je gratte.
Si on me dit ça, je dis, ouais, je gratte. Alors, des fois, je croise des gens. Ah, ça va, tu grattes toujours? Ouais, je gratte toujours. Je dis rien,
depuis
mais.
Depuis le temps.
J'encaisse, mais oui. Non, on est musicien.
Et alors, justement, vous étiez également plus jeune, Véliplanchiste, et ça vous a emmené dans pas mal de spots. Vous aviez une sorte de routine, boulot.
Ben moi, j'avais deux passions. J'avais deux passions. J'avais la guitare et j'avais la planche à voile. Donc, j'aimais bien les deux. Et puis, c'est vrai que la planche à voile, ça m'a amené à commencer à voyager. Donc, commencer à partir un petit peu partout. Puis j'ai passé du temps. J'ai navigué à fond. J'étais vraiment à fond, quoi. J'étais vraiment, bon, un puriste, hein, parce que je faisais pas de compète. Non, je naviguais. J'aimais bien naviguer à l'époque dans les vagues. Tout ce qui était saut, jump. Bon, aujourd'hui, je suis un peu plus âgé. C'est mon fils qui me pousse. Papa, allez, viens faire de la planche. Non, c'est bon, trop de requins maintenant. Je reste à la messe, tranquille.
Oh, la bisque.
Je joue de la guitare. C'est pour ça que l'avantage, j'ai fait les deux. Donc maintenant, je peux rester à la maison, jouer de la guitare.
Donc plus de guitare, moins de planche à voile.
Exactement.
Mais alors, justement, la planche à voile, ça vous a emmené vraiment dans des endroits assez fous. Vous n'avez pas eu peur? Hawaï, les îles Canaries?
Bah, en fait, à l'époque, je travaillais pour. J'avais travaillé en bijouterie, puis après j'ai arrêté. C'est à l'époque où on commençait à fabriquer des planches à voile, des planches de surf. Donc, la planche à voile arrivait à Nice, c'était waouh, super. J'ai dit, tiens, c'est génial ça. Donc j'ai acheté ma première planche à voile, c'était une Saint-Val, je l'avais acheté dans une grande surface. Et pareil, quoi, comme pour la guitare, ça se monte comment le mât? Tu peux me montrer, s'il te plaît? Et puis j'ai commencé la planche comme ça, et puis très rapidement, je me suis intéressé, puis j'ai commencé à bosser en fait dans un magasin qui s'appelait à l'époque Weekend Sport, donc ça voulait tout dire. On travaillait même le week-end, mais
d'accord.
J'avais pas mal de temps pour faire de la planche à voile, donc pareil, voilà, je vendais des planches, je conseillais les gens, et c'était bien.
Mais vous avez même chipé des planches.
J'ai fabriqué des planches, parce qu'en fait, on a découvert à l'époque, on regardait Robin Esch, tous les grands, Mike Waltz, Mol Dimmer, tous ces grands planchistes. Donc chaque mois, j'achetais le magazine, le Wind Magazine, et puis on regardait, tiens, tel, il fait la figure comme ça, tiens. Donc on s'essayait à faire les jibes, à faire les aerial jibes, à faire les donkey kicks, toutes ces figures de planches à voile. Et puis bon, on se prenait pas mal de gamelles, mais c'était bien. Et petit à petit, moi je mettais les ronds de côté, je bossais, puis après je partais pendant 2 mois, 3 mois, j'allais naviguer à Maui, à Hawaï, après je partais aux Canaries l'année d'après. Donc c'est comme ça que j'ai commencé vraiment, parce que bon, je naviguais à Nice, ou alors on allait naviguer à Fréjus, on allait à Marseille, on suivait le Mistral, parce que des fois le vent rentrait mal, était mal incliné sur Nice, donc allez, on poussait jusqu'à Cannes en premier. Il n'y a pas assez de vent. Bon, allez, on finissait à Toulon et on naviguait tout le week-end.
Pour revenir.
Et on était à fond avec une bande de copains dans la planche. Et c'était vraiment super. Après, un jour, je me suis dit, bon, moi, j'en ai marre d'acheter ce bouquin tous les mois, de voir Hawaï, de voir les Canaries, le Portugal, de voir tout ça. Je dis, moi, je m'achète un billet, je vais aller naviguer. Et je suis parti, le premier voyage que j'ai fait, je suis arrivé à Hawaï pour naviguer à Okipa, donc sur l'île Maui, qui est le spot mythique de la planche à voile, la planche de surf, windsurf et planche à voile. Et là, ça a été waouh! Quand tu vois des vagues de 3, 4, 5 mètres qui arrivent, tu y avances, c'est plus pareil. Première sortie, j'ai tout cassé, j'ai cassé le mât, j'ai cassé le wishbone, retourné acheter, casser la tirelire et réacheter ça, et puis on a commencé à naviguer, et puis voilà, c'est comme ça que je me suis vraiment formé dans les grosses vagues, et c'était super.
Et puis un jour, il y a une amie qui vous parle de la Nouvelle-Calédonie.
Et voilà, il y a un jour, il y a une copine qui me parle de la Nouvelle-Calédonie. Et qui me dit, tu connais la Nouvelle-Calédonie? Je dis, non, je ne connais pas. Enfin, je connaissais Robert Territao, c'est qu'il était calédonien, c'est un bon planchiste. Elle dit, non, je ne connais pas. Puis elle me dit, écoute, j'ai ma mère qui vient de reprendre un restaurant, le Faré de la Pointe Magnan. Donc, si tu veux venir, y a du boulot. Je dis, ouais, pourquoi pas. Et puis, je suis arrivé en 88 avec ma planche à voile et ma guitare sous le bras. C'est comme ça que je suis arrivé en Calédonie.
On écoute, on va revenir un petit peu plus terre à terre, on prend la caravane, voilà. Celle de West Montgomery.
Oui, West Montgomery, c'est super.
Et on en parle après.
Merci. We'll be right back.
À plus d'un titre sur RRB.
À plus d'un titre, il est déjà 10h passé de 9 minutes. Il nous reste un peu moins d'une heure avec notre invité. On va devoir lui poser plein de questions encore pour percer ses secrets. Alors moi, il y en a une qui m'intéresse, si je puis me permettre. Est-ce que je peux décrire vos mains à nos auditrices et nos auditeurs? Vous avez des mains assez fortes.
Oui.
On est d'accord, vous avez des doigts épais. Et vous n'avez pas d'ongles.
Non.
Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir jouer de la guitare? Il faut des ongles ou pas d'ongles?
Si on fait du classique, oui, il vaut mieux avoir des ongles.
Ça se joue avec les ongles.
À la main droite.
D'accord.
Ou du flamenco, oui. Parce que c'est l'attaque sur les cordes est complètement différente. Là, par exemple, moi, je joue au médiator. Bon, ce qu'on vient d'entendre, c'est particulier parce que j'ai fait un clin d'œil à West Montgomery parce que s'il n'y avait pas eu West Montgomery, il n'y aurait pas eu George Benson. Pourquoi? Parce que West Montgomery, c'est un guitariste qui était complètement autodidacte. Il travaillait en usine, il avait 8 gamins, et le soir, quand il rentrait à la maison, il jouait de la guitare, et pour pas faire de bruit, pour pas réveiller ses enfants, il jouait tout au pouce. Donc la particularité de sa main droite, donc il n'y avait pas de médiator, il n'y avait pas d'ongle, c'était juste avec le pouce de la main droite, il jouait sur les cordes. Il faisait des doubles...
Donc main gauche, les accords sur le manche.
Les accords, des doubles notes aussi, c'est la particularité de son jeu, donc des notes à l'unisson, et main droite, tout au pouce. Tout en poussant le vers le bas. Donc ça, là, déjà, c'est super costaud.
Oui.
Et c'est un guitariste qui, malheureusement, n'a pas vécu longtemps parce qu'il est décédé à l'âge de 43 ans. Il a été découvert pendant peut-être les 4 dernières années de sa vie. C'est là qu'on... Waouh, West Montgomery, sauf qu'il a influencé à peu près 50 à 80 ans de guitare aujourd'hui. Quoi. La référence du jazz, de la guitare jazz, c'est West Montgomery. Parce que George Benson est un fan de West Montgomery. Et puis bon, d'autres guitaristes aussi qui ont, comme Pat Metheny, comme Joe Pass, comme Jimmy René, Jim Hall, tous ces guitaristes-là, s'ils n'avaient pas été là, aujourd'hui, le jazz, la guitare, ça serait un petit peu faible, quoi.
Donc ça, c'est encore un autre type de musique.
C'est un autre
vous
style
nous avez
de
emmené.
Voilà. Et okay. C'est vrai que le classique, non, le classique, c'est différent. Le flamenco, c'est différent. Faut entretenir ses ongles, la main droite. Non. Là, en jazz, c'est soit au médiator, soit au pouce.
Alors justement, puisqu'on est en train de parler de ça, j'ai complètement perdu ma question. Bee Gees, you should be dancing. On va passer complètement du coq à l'âne.
Ah ouais, non mais complètement. Bon, c'était. Il y a tellement de musique que j'aurais voulu faire passer, mais il y en a tellement en fait. Il y a tellement de trucs quoi.
Ouais.
Que j'écoute depuis toutes ces années. Là, je me suis dit, tiens, allez, un petit retour en arrière. Je suis jeune, c'est la plage. Les Bee Gees arrivent, Saturday Night San Francisco, enfin, Saturday Night Fever, c'est la folie. Tout le monde danse, c'est arrivé, ça nous est arrivé en plein été au coin de la figure, et je crois que ceux de mon époque doivent se rappeler vraiment à l'époque où quand les Bee Gees sont arrivés, on était tous on sortait en boîte, en costard blanc.
C'est ce que j'allais vous demander, vous étiez clubbing là pour le coup, alors, Colpe la tarte.
Voilà, exactement. Bon, j'étais pas trop un fan des boîtes, j'ai jamais trop aimé les boîtes de nuit, mais quand on sortait un peu avec les potes à Cannes, on allait, whisky à gogo à Cannes, et voilà, tout le monde dansait, essayait de danser comme Travolta. C'était rigolo.
Mais c'est là que plutôt qu'on vous imaginerait, un Roadhouse Blues, un whisky à gogo à la Jim Morrison, plutôt à Los Angeles, dans une espèce de bar avec pas trop de lumière et des mecs qui ont tous la clope au bec, enfin l'ancien style quoi.
Ouais, l'ancien. Ouais.
C'est ça? À peu près l'image?
Ouais, on va dire, ouais, c'est ça. Allez.
Bon, on change d'univers et on va voir les Bee Gees, un peu plus de cheveux longs. We'll be right back.
À plus d'un titre sur RRB.
Et ça swing et ça balance avec notre invité aujourd'hui. Il est 10h17, c'est Michel Trabelsi qui nous a fait l'honneur de venir donc nous faire eh bien jouer sa playlist. Et j'avoue que depuis tout à l'heure, on a à peu près évoqué quasiment tous les styles de guitare possibles. Et là, il y en avait de la guitare. Hein.
Ah oui, bah,
on a vu l'évolution. Mais alors,
funky, oui.
Elle est à peine perceptible, la guitare, sur les Bee Gees.
Oui, oui, parce qu'il y a, bon, il y a toutes les sections cuivres derrière, là, les basses, percussions aussi, congas, djembé, on entend tout ça derrière. Et c'est vrai que la guitare, elle intervient uniquement rythmiquement, là, avec un son très, très aigu. Là.
Un peu à la Jimi Hendrix ou je...
Ouais, funky, très funk en fait.
Ok, d'accord. Voilà. Friday Night in San Francisco, Mediterranean Sundance. Alors, pourquoi vous voulez nous emmener la nuit à San Francisco un vendredi soir?
Ben, tout simplement parce que ce qu'il faut savoir, c'est que cet album Friday Night San Francisco, c'est un album qui est sorti, je devais avoir à l'époque 22 ans, donc je gratouillais toujours. Et d'un coup, j'entends ça et je me dis, mais c'est quoi ce truc, quoi? Waouh, c'était la première fois qu'on entendait vraiment trois guitares acoustiques jouer ensemble, quoi. C'était vraiment tout nouveau. John McLaughlin, Aldi Meola, Paco de Lucia, donc ce mélange de trois musiciens d'horizons différentes. Paco de Lucia, c'est le flamenco, c'est Séville, c'est un grand virtuose de la guitare flamenco. Aldi Meola, lui, c'est un américain avec son style de guitare bien personnel, et John McLaughlin, guitariste anglais. Et là, ils font un trio qui a fait en fait le tour du monde, c'est devenu planétaire. Et donc j'entends ça, et coup de bol, ils passent à Nice. Donc je vais les voir sur scène, et là, ben, nouveau choc, je me prends ça, je me dis, waouh, c'est ça que je veux faire, quoi. Mais c'était compliqué aussi en même temps. Et donc j'écoute ça, et ça a été au moins une révélation. Et c'est ce qui m'a amené petit à petit à m'intéresser, à aller vers un petit peu autre chose que le picking, que le rock, et aller vers plutôt le jazz, et travailler mes rythmiques, travailler les solos. Donc là, ça a été vraiment, pour moi... un électrochoc.
Alors la différence, le picking, c'est quand on pince la corde, c'est ça?
Ben le picking, c'est un style où on peut faire du, on joue tout seul en fait. Le picking, c'est un petit peu personnel, quoi. C'est
un peu Francis Cabrel, un
ouais,
peu.
Ouais, voilà, c'est des arpèges. Voilà, ben, le picking, c'est un petit peu country, c'est un petit, c'est la main droite fait des, la main droite, le pouce fait des basses, et l'index et le majeur et l'annulaire, on fait, et là on fait donc les autres parties de guitare. Donc on peut jouer tout seul, s'accompagner. Mais arrivé à un moment, c'est un petit peu embêtant parce que ouais, on est seul, quoi.
Donc, okay.
Donc là c'est différent parce que là vous avez pas John McLaughlin, lui il joue au Mediator, Aldi Meola pareil Mediator, et par contre Paco de Lucia, là c'est tout le travail flamenco de la main droite, c'est encore un autre univers. Donc c'est ce que je dis quand on me dit ah mais j'aime bien le flamenco, j'aimerais bien faire du flamenco. Ouais, si tu veux faire du flamenco, faut se mettre que là-dedans, quoi, si tu veux, parce que c'est pas bon. Les Gypsy Kings, j'adore.
Oui.
On peut classifier ça bien sûr de flamenco,
oui.
Mais quand on est puriste, il faut écouter Paco de Lucia. Et là, c'est un travail de rigueur, quoi. C'est comme du classique où là, faut se poser sur l'instrument. C'est un travail complètement différent.
Et alors, tout à l'heure, vous nous avez parlé du magazine Wind, qui vous permettait, oui, de savoir un petit peu et vous informer sur les planches à balles. Vous, en fait, vous êtes autodidacte de la,
ben,
guitare.
Moi,
tout ce que vous savez là,
tout ce que j'ai appris, je l'ai appris, ouais, à l'oreille, en fait.
Carrément.
Donc j'ai jamais pris un cours de guitare de ma vie.
Pas de solfège.
Pour moi c'était... je venais du Moyen-Âge.
Non, parce que sur le coup de Wes Montgomery, là, quand vous nous dites, il avec son pouce
avec
seulement...
Son pouce,
enfin, j'essaye de faire
pouce.
Visualiser aux auditrices, aux auditeurs, ces différentes manières de jouer, parce que c'est quand même assez hallucinant, quoi. Ça change tout.
Oui, bah, ça change tout, ça change le son, et donc uniquement avec le pouce. Là, c'est carrément les doigts. On le sent dans l'attaque de Paco, on va entendre ce son de guitare très, très staccato, très puissant, quoi. Et là, c'est un jeu. Donc tout ça, ça se mélange et c'est vraiment, waouh, ça semble super bien, quoi.
Ok, monsieur le professeur, on est à l'écoute. On y va. C'est parti. Alors ça va commencer tout doucement et nous y voilà.
La pub.
Et si on faisait un maximum d'économies ? En ce moment, dans vos hypermarchés Géant Casino et Supermarché Casino, c'est maxi promo sur les prix.
C'est maxi promo pour les bébés.
C'est maxi promo sur le goûter.
C'est maxi promo pour le Magie, le papier toilette, le Perrier, le riz, les pizzas, la maïzena, la mayonnaise, l'eau pétillante, le dentifrice, la lessive, les tablettes vaisselle, les yaourts, les surgelés, les...
Bon ok, on a compris. Maxi promo, c'est dans vos hypermarchés Géant Casino et Supermarché Casino jusqu'au 29 août. Et c'est à ne surtout, surtout pas rater.
Maxi promo, un maximum d'économies.
Les prix bas, c'est... Yeah.
Votre publicité sur RRB, c'est un effet garanti et un impact assuré. Appelez Vincent ou Eugénie au 25 46 46.
Tous les dimanches, retrouvez Canal Folie, votre émission dédicace sur Radio Rythme Bleu avec l'OPT. Derrière nos agents, des clients comme vous, au service de la même exigence. Rendez-vous sur le nouveau site office.opt.nc. OPT, le monde, à portée de main.
À plus d'un titre sur RRB.
L'émission, c'est à plus d'un titre et on rentre déjà dans le dernier tiers de cette émission avec notre invité Michel Trabelsi. Merci d'ailleurs, hein, on peut que vous remercier puisque là, pour les 10 minutes qu'on vient d'écouter, on avait besoin d'explications quand même. On aurait dit finalement, c'est comme dans une forêt où les oiseaux se répondent. Vous étiez en train de m'expliquer un petit peu hors antenne comment ça fonctionnait, mais c'est juste fascinant. Donc il y en a un qui lance... C'est quoi la base?
En fait, il y a une suite d'accords qui est prévue dans la composition de ce morceau. Et ensuite, il y a une grosse part d'improvisation aussi. Donc, le thème commence. Et puis après, c'est parti dans l'impro, quoi. Et là, on se répond à un moment. Voilà, chaque guitariste, là, il se regarde et puis il se dit, c'est à toi. Juste en se regardant un coup d'œil, on sait que c'est à lui de faire sa partie de solo. On entend Paco de Lucia, on entend Aldi Meola. Après, c'est John McLaughlin qui prend la rythmique. Et tout ça, ça s'imbrique l'un dans l'autre. C'est magnifique. Moi, je les ai vus en concert, j'étais fou. Donc là, je me dis, ouais, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et puis à l'époque, c'était des vinyles. Donc, ça allait tellement vite. Je me dis, mais comment ils font ça? Donc, j'avais trouvé l'astuce. Je prenais le vinyle comme ça, je désaccordais ma guitare très en dessous et j'appuyais sur le doigt pour ralentir le vinyle pour comprendre la phrase. Je la ralentissais, je pose, je refaisais. Et puis j'ai bossé tout l'album comme ça, l'album, tous les titres de cet album, je les ai bossés, chaque partie de guitariste, aussi bien Paco, Aldi Meola, et ça m'a énormément apporté au niveau du placement rythmique, au niveau du déchiffrage à l'oreille, au niveau de la précision, de l'attaque, main droite, et ça a été énorme. Donc j'ai acheté les deux premiers albums qu'ils ont sortis, et puis après ça m'a amené bien sûr vers autre chose, ça m'a amené... Après avoir fait ce style-là, ça m'a amené tout de suite vers Django Reinhardt. Parce que là, ça a été, tiens, une autre découverte. Quand je suis arrivé en Calédonie, j'ai rencontré Jean-Max Nahan, à qui pas mal de musiciens le doivent beaucoup. C'était un passionné de guitare, c'était un ami. Et c'était un musicien qui adorait Django, Wes Montgomery. Il m'a fait découvrir beaucoup de musiciens dans le jazz. Et il m'a montré des accords, et là je partais dans un autre univers encore différent de Santana, différent de la country music, du picking, différent d'Aldi Meola ou du jazz rock. Là c'était Django Reinhardt. Et là, je me suis dit, waouh, c'est encore un autre truc. Tiens, les accords sont différents. Et pareil, rebelote. C'est pas un travail pour moi. Ça n'a pas été une complexité. Ça a été, comme c'est un plaisir et la passion, ben, monter, je compare un peu la guitare comme un gratte-ciel. On gravit les marches, et puis de temps en temps, hop, on arrive au quatrième étage, on dit, ouais, le palier, petite pause, puis on continue. Mais c'est en fait un gratte-ciel qui n'a pas de fin, quoi.
On peut pas regarder en haut, quoi.
Bah, justement, on essaye de monter en haut, puis des fois, on redescend 10 étages plus bas, et tout ça pour dire que si on veut être musicien, si on veut travailler un instrument, il faut jouer tout le temps, quoi.
Et justement, j'allais vous demander, la pratique quotidienne, elle est de combien par jour? Combien d'heures il faut? Pas pour forcément avoir le niveau de ceux qu'on vient d'écouter, parce que là, c'est l'histoire d'une vie, mais oui. Se lancer réellement dans la musique et commencer à pouvoir accompagner des groupes ou quoi, il faudrait approximativement combien de temps?
Ben moi, ce que je dis, c'est que si on a envie d'apprendre à jouer de la guitare, à n'importe quel âge, hein, même 70 ans, je veux dire, il n'y a pas d'âge, commencer tout doucement avec les accords en bas du manche, ce qu'on appelle les accords ouverts, il y a les simplement, et après, ben, commencer à faire un premier accord, un barré. Donc, c'est-à-dire l'accord avec tous les quatre doigts de la main gauche. Et puis, ben, travailler. Après, maintenant, quand il s'agit de jouer dans un groupe, là, il faut un petit peu d'expérience, quoi. Je dirais, ça tout dépend du niveau, ça dépend. Vous avez c'est un peu comme tout, un peu comme la peinture. Si on se met à faire de la peinture, si du dessin, ben voilà, il faut s'entraîner à dessiner, il faut s'entraîner aux couleurs, et tout ça, ça prend du temps. Et ça dépend de le temps qu'on investit. Moi, je dis toujours, comme je disais quand je donnais des cours, bon, ben voilà, un minimum, essayer de travailler vraiment, allez, une demi-heure par jour. Mais bon, si tu peux en faire 2 heures, c'est bien. Tout dépend ce qu'on veut atteindre. Si on veut se faire plaisir, oui, gratouiller. La guitare en Calédonie, tout le monde joue de la guitare. Donc, plus ou moins bien, on va dire.
Mais entre gratter, mais, jeux interdits,
voilà,
l'important,
c'est de se faire plaisir. Voilà, c'est vraiment. Quand je donne des cours, des fois, on me dit, ah, mais tu t'ennuies pas avec tes élèves? Parce que jouer comme tu joues et puis leur apprendre un accord, un do, un sol. Mais non! Là, on transmet, là, c'est pas pareil. Le rôle est différent. On n'est pas là pour faire une démonstration de guitare à un élève. On est là pour, moi, ce que j'essaye, c'est de lui transmettre déjà l'amour de la musique avant tout,
le
travail de l'instrument. Et puis après, faillitira, comme on dit chez nous. Hein. À toi de te débrouiller, quoi.
En tout cas, vous le faites très bien, parce que là, vous nous avez bien transmis votre passion. J'ai une autre petite question. On va s'écouter donc Francis Cabrel et Sanseverino avec le morceau André.
Oui.
Mais juste avant cela, vous, combien d'heures par jour à peu près?
Moi, il y a des moments où j'ai beaucoup travaillé, à peu près 3 heures
par
jour.
C'est votre rituel à vous.
Là, en ce moment, dernièrement, avec le projet dont on va parler un petit peu plus tard, là, c'est à peu près 2 heures par jour de guitare. Voilà. Mais sinon, il y a eu des périodes où je travaillais pas la guitare du tout pendant une semaine, 15 jours, mais on garde des acquis.
Ouais, je pensais que c'était quelque chose que vous preniez pour déstresser. Est-ce que vous avez vos propres petits challenges du style, tiens, celle-là, là, ça fait un petit moment que je travaille cet accord, peut-être que je m'exprime mal, mais essayer de passer un truc que vous avez entendu, ou il y a des choses sur lesquelles vous focalisez? Comment vous fonctionnez?
On focalise sur les passages difficiles, en fait.
D'accord.
J'ai toujours dit, ça, faut que j'y arrive, c'est dans la tête, c'est de se dire, non, il est arrivé, il faut que j'y arrive, il faut que j'y arrive, et de le répéter. Alors, le truc, c'est, il y a des, moi, je vois en jazz, hein, sur les morceaux de Django Reinhardt que j'ai travaillé, les compositions de Django, où là, c'est jazz manouche, encore un autre truc. Moi, pour moi, enfin, le jazz manouche, c'est l'aboutissement de la guitare. C'est-à-dire que ça englobe vraiment toutes les musiques, hein, la valse, le tango, le boléro. Django a composé plein de morceaux, le swing. Et je pense que, enfin, c'est une idée personnelle, c'est l'aboutissement de la guitare. Après, maintenant, j'ai beaucoup travaillé sur mes acquis, et puis de temps en temps, je me remets à fond à la gratte. Et des fois, on va travailler, on va faire une phrase compliquée, on va la jouer, je sais pas, 1000 fois. Elle passe, et puis arrivé à un moment, si on joue en public, paf, tu balances la phrase, tu la loupes, quoi. Je veux dire, tout est un travail c'est dans la tête aussi. C'est vraiment, faut faire un travail sur soi, il faut se mettre dans une bulle et puis se concentrer, quoi. Tout dépend de l'état dans lequel on se trouve.
André, Francis Cabrel et Sanseverino, et puis on en parle après?
Oui.
Alors, c'est un live. Ça commence tout doucement. Thank you.
André Balanéo a des frissons dans le dos, le temps n'y est pour rien, juste un peu la pluie, son écharpe est mouillée.
Merde!
J'aurais dû mettre un caouet, se dit-il, alors il en met un. Comme les amis sont chers, lui, il n'en a pas un. Il est prêt à tout sacrifier pour s'en trouver plein. Sur sa table, tiens, il y a toujours un paquet de biscottes pour s'y doit recevoir. À Paris, quand il fait gris, il fait nuit. Et quand il fait moins 3, il fait froid. L'élégance n'a d'importance que si on y pense. C'est en passant devant la glace qu'il s'aperçoit qu'il est sapé comme Santana. Il est gêné un peu, il sait qu'il pourra pas faire mieux. Il aurait pas dû penser à son habillement comme ça. Je peux pas sortir avec ça, n'ayez. Avec ça on devrait pas mettre de miroir. On devrait vivre dans les tiroirs, yeah. À Paris quand il fait gris, il fait nuit. Et quand il fait moins 3, il fait froid. L'élégance n'a d'importance que si on y pense. À Paris quand il fait gris, il fait nuit. Et quand il fait moins 3, il fait froid. L'élégance n'a d'importance que si on y pense. Tout ça va me servir à quoi si je me change pas. Et puis il enlève son caouet, il est déjà un peu moins laid. La veste de survêtement bordeaux, le pull à col roulé, les claques et le pantalon intergal. Pas repasser la vie de ma mère comme il est beau. C'était le caouet qui faisait crado. Allez à vous, palais des congrès là. La vie de ma mère comme il est beau. C'était le caouet qui faisait crado, ouais. Quand il fait gris, il fait nuit. Et quand il fait moins 3, il fait froid. L'élégance n'a d'importance que si on y pense. À Paris, quand il fait gris, il fait nuit. Et quand il fait moins 3, il fait froid. L'élégance n'a d'importance que si on y pense. Il découvre tout ça.
San Severino.
À plus d'un titre sur RRB.
À plus d'un titre, il nous reste à peine un tout petit quart d'heure à passer avec notre invité. On va donc eh bien en profiter. C'est le dernier, l'avant-dernier morceau, c'est Profound Night. Donc le soldat profond, et c'est Bless.
Oui. Oui.
Pourquoi ce choix de morceau?
Ben en fait Moi, j'ai deux garçons. J'ai eu deux enfants avec mon épouse. Et bon, voilà, quand on est guitariste, on a toujours, quand on est musicien, on a tout de suite envie de transmettre, de dire voilà, c'est lui, c'est mon fils qui va, c'est lui qui va jouer de la guitare. Ça. Mais je leur ai tellement pris la tête avec la guitare, là.
Ouais.
En fait, ils font autre chose, quoi. Et donc, mon Maxime, mon fils, lui, est beatmaker, en fait. Donc,
ouais.
Il fait des sons. Donc, il va chercher des sons sur Internet et il travaille sur un logiciel qui s'appelle Logic Pro. Mmh. Et donc, c'est complètement différent. Donc, il joue pas d'instrument, mais par contre, je suis content parce qu'il a hérité de, il a une bonne oreille, il aime le jazz, il aime ça. Et donc, il a mis de la musique sur Internet et il y a un Américain qui l'a contacté, qui lui a dit, ah ben voilà, j'aimerais bien chanter sur ta composition. Donc, il était super content. Et donc, ça donne ce qu'on va entendre. Donc, le nom de scène de mon fils, c'est James Seas. Il a participé dernièrement à un petit concours de beatmaker
qui a eu au Rex.
Voilà. Ouais. Et donc, voilà, j'ai voulu, un petit clin d'œil sur, je suis content de lui, quoi. J'aime bien ce qu'il fait, c'est cool.
On le sent, la fierté du papa. Donc, on rappelle juste à nos auditrices et nos auditeurs que c'est votre fils qui fait toute la partie instrumentale.
Toute la partie instrumentale.
Et que ce fameux musicien rappeur est venu lui demander si lui il pouvait chanter dessus.
Voilà, exactement.
En utilisant donc.
Je crois qu'il est de Brooklyn. Et puis voilà, donc ça donne ça.
Eh ben, allez, on y va. Profound Night Bless.
Yeah. Profound night. Peace on earth is what a nigga used to dream for. How could you understand peace if you ain't seen war? My vocal pattern can shatter the wall of Babylon. Put your mind on incline up to heaven's door. What is religion? What are you feeling? Mine is the persuasion put on your conscience. We're watching television. These shapeshifters and earthbenders looking for the last avatar or just a sliver of the living God. Electrify your body, just a vision of them. I can edify your soul with just a mention of them. I'm old school like cornbread out the kitchen oven. Give you niggas soul food instead of chicken nuggets. Miss Betty Shabazz, Coretta Scott, King Flow. Free at last, I have a dream, my ringtone. My friends, my brothers, regardless of their skin tone. From the scrimmage line, I can see the end zone. And we gon' make it there somehow. The sun gon' shine through the dark clouds. The street life is all we know. Still I believe anything is possible. My Muslim brother told me we gon' shine. I respected his knowledge in the bow tie. Cause round here it's white tees and faux fives. Niggas got the life expectancy of house flies. They be debating, saying it's in our nature. Little no education, we only wanna be famous. Apartments built like mazes by the hands of Freemasons. Archetype pattern of a nation. Discrimination, probation, inflation. Another problem to solve, we need salvation. I know why the cage bird sings. Looking at the sunrise, trying to be free, saying to a sonar, you ain't fly to me. If I ain't supposed to fly, why I got two wings? Why they wanna hold us back? They ain't never sat on a park bench holding crack. They ain't never break a pound down to all dime sacks. Or walk barefoot next to long train tracks. Eyes on the promised land, I can't look back. This is how it is, I'm just stating the facts.
À plus d'un titre sur RRB.
Mais c'est sincèrement bien ça.
Ben oui, ça sonne.
Vous avez de quoi être fier. Ben oui, ça claque bien.
Il y a
même comme
groove,
dirait.
Là.
Ouais, c'est posé,
ouais,
c'est claqué.
Bien. Ouais, c'est bien, j'aime bien.
Bon, ça c'était la fierté pour conclure. Et on va conclure autrement. Malheureusement, il est déjà temps de se dire au revoir. Oui, je vous l'avais dit, ouais. Mais en tout cas, merci. Donc, on rappelle
merci
que l'émission, c'est à plus d'un titre. Que notre invité du jour, c'était Michel Trabelsi, qui nous a donc fait rentrer dans son univers et on l'en remercie grandement. C'était un super voyage. Encore une fois,
merci
pour
beaucoup.
7h30, ça a été, enfin, pour les auditrices et l'éditeur, je sais pas, mais voilà, j'espère qu'ils ont appris des trucs.
Merci.
Dire Straits et Sultan of Swing. Ça, c'est votre actu. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de pourquoi?
Alors, Dire Straits, en fait, ce qui se passe, c'est que Louis Pérez, musicien qui est bien connu du Calédonien, m'a contacté pour me dire, voilà, j'aimerais bien qu'on fasse un tribute Dire Straits et on a pensé à toi pour la guitare. Je me suis dit, waouh, super! Dire Straits, en plus, j'adore. Il me dit, ouais, je sais que tu connais bien cette musique. Donc, j'ai dit, ouais, ok. Et en fait, on a commencé à bosser depuis 5 mois et on est 8 musiciens et on a donc eu l'idée de faire donc ensemble de prendre 15 titres de Dire Straits et de préparer donc un concert qui va se dérouler vendredi 3 septembre au 1881 Donc, 2 heures de spectacle, uniquement les morceaux de Dire Straits.
Après, donc, on pourra vous rencontrer. C'est bien ça?
Oui, ben, on sera sur place. Donc voilà, donc, si vous pouvez aller sur Facebook, on a une page Dire Straits Tribute. Et si les gens souhaitent passer, l'entrée est payante. Et c'est ticket.nc qui vend les places. Donc vendredi 3 septembre.
Au 1881.
1881, à partir de la porte ouverte à 18h et début des concerts 20h.
Donc 20h, 22h, voilà. 2h.
Alors 2h de show et on a vraiment bossé. Donc de clavier, Mike O'Flynn au chant, Jérémy Bell-Antonio à la guitare, Fredo à la batterie. Et vraiment, on a fait un super boulot. Ça fait 5 mois qu'on répète. Moi, j'ai pas trop l'habitude de répéter. En général, dans le jazz, on se pose, on fait le choix des morceaux. Mais là, non, on a fait un gros travail sérieux et ça commence. On est assez content, ça commence à sonner.
C'est évident. Si un professionnel comme vous est content, ça promet. À mon avis, ça vaut le coup d'y aller. On invite donc tous les auditrices et tous les auditeurs à vous retrouver au 1881 vendredi prochain. C'est bien ça?
Oui, c'est ça. Merci.
Merci beaucoup. Merci encore une fois, Michel Trabelsi, de nous avoir rejoints. On termine donc cette émission à plus d'un titre avec Sultan of Swing, Dire Straits.
You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you're stopping, you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound. Way on down south. Guitar George, he knows all the chords. Mine is strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. His dad and old guitar is all he can't afford. When he gets up under the lights to play his thing.
more thing. We are the Sultans. We are the Sultans.